Alien et les garçons, épisode 29. Bienvenue dans Toi, mon meilleur.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons, épisode 29.
Bonjour.
Bonjour.
Dis donc, t'es si morose.
Alors en fait, j'ai pas du tout prévu de faire une intro comme ça. J'ai remarqué que tous les nouveaux podcasts,
ouais.
C'est la débauche de la joie, constamment.
Ah, genre comme les youtubeurs quoi.
Exactement, c'est trop, c'est pas crédible. Ouais. Alors je propose d'être naturel.
Salut les amigos.
Là, on est bientôt, on vient de passer le Blue Monday, je pense, un truc comme ça pour les éditeurs.
C'est quand? Ah oui, d'accord.
C'est mi-janvier. Et clairement, non, c'est pas la joie.
C'est quoi la débauche de la joie?
Mais c'est les nouveaux podcasts. Ouais.
Alors fais-nous une ouverture de nouveaux podcasts en ébauche de joie.
Alors. Coucou Calice, salut Athéna, comment ça va les copains?
Salut, ouais, ça va très bien.
Ouais, trop cool.
Par exemple,
ok, je vois.
Alors j'exagère. Alors deux choses, j'exagère un peu. Deuxième chose, je suis en train de tacler les nouveaux podcasts comme si on était dans le podcast game depuis 1999.
Ouais, c'est clair.
Alors qu'on est arrivé il y a un an et demi.
Ouais, j'ai reçu un. Enfin, vous avez dû le recevoir aussi. C'était sur la boîte Gmail Alien et les garçons. Mail de Twitter qui nous dit qu'on a fêté nos un an il y a pas très longtemps.
Mais non. Sur Twitter, ouais, j'ai reçu.
C'est sur Twitter, oui.
Sur Twitter. Est-ce que le podcast, on est un peu plus vieux, mais ça fait un an sur Twitter, et quel succès, quelle ouais. success story moderne. On est un peu les Trump du podcast.
Oh bah au moins tout ça.
Il y a deux épisodes, c'était les Beatles, ouais, sur Twitter. Super. Nouvel épisode, on est content. Hein.
Très content. Mais c'était dur. Hein.
C'était très dur à sortir, c'était la thématique 6 pieds sous terre.
6 pieds sous terre
qui nous a été donné par...
Inès?
Non, Sylvain.
Ah.
Sylvain, j'ai même son de famille, on va pas le donner, qui nous l'a donné. C'était dur pour vous?
Ah, il nous l'a donné sur iTunes.
Il nous l'a donné sur iTunes, ouais.
Chic-tip. Mais pourquoi tu dis Sylvain comme si on le connaît?
Non, parce que c'est son nom pseudo. Son pseudo, c'est Sylvain.
Mais non, mais on avait l'air, tu nous as dit donné ouais. par genre. Et alors,
non,
qui,
c'était pour prendre le piège.
Ah,
c'était
d'accord. Bon piège. Non, mais très bien. Bah, merci Sylvain.
Merci Sylvain. 6 pieds sous terre, ça vous a inspiré quoi, Florian?
Tu veux que je parle de mon monde?
Ouais, de ton
déjà
monde.
Maintenant comme ça de but en
blanc. Ouais.
Bah, moi ça m'a inspiré un monde souterrain. Voilà, ça vous avance pas des masses, mais
si, on aime bien.
Ah, 6 pieds sous terre, parce que j'ai regardé, du coup j'ai tapé 6 pieds sous terre, donc c'est une expression. Tu as vu pourquoi on disait 6 pieds sous terre?
Non, pas du tout.
C'est là qu'on enterrait les cadavres.
Expression du 16e siècle, mm-hmm. qui à l'époque où on a commencé à réglementer un peu les cimetières. Et dans la réglementation des cimetières, on s'est dit qu'il fallait enterrer les cadavres. On a décidé d'une distance, d'une profondeur, et la profondeur était de 6 pieds. Il me semble que ça doit faire 180 cm, quelque chose comme ça.
C'est
cette profondeur qui a été décidée pour éviter que les chiens ne déterrent les cadavres pour attraper les os.
C'est dégueulasse.
Voilà. Petit point culture.
Merci Vic pour le petit point à la pipe.
Mais c'était pour m'inspirer sur le thème.
C'était très intéressant. Et donc Vic, puisque tu as la parole, de quoi va nous parler ta chronique
Bien, ma chronique, je vais tenter de formuler une théorie sur la vie après la mort.
Ah, j'aime bien. Moi, c'est moins bien que vous, je crois.
Alors,
mais ce sera mieux à la fin. Mais là, comme ça. Moi, je parle d'un monde où les IA font que plus personne n'a besoin de travailler. Parce que le monde est automatique, en fait.
D'accord.
Ok,
très bien.
Mais
on verra le lien avec 6 pieds sous terre pendant la chronique.
Exactement. À la toute fin, peut-être. Ou peut-être à un autre moment, je ne sais pas.
Peut-être dans un prochain épisode.
Démerdez-vous. Ou peut-être dans un épisode précédent.
Ça serait pas la première fois qu'on fait dans une chronique, qu'on ne respecte pas dans une chronique totalement le thème.
Ah, moi, je respecte tout le temps, contrairement à Florian.
Ouais. c'est un peu ma spécialité.
Ouais.
Alors, et donc, on va se faire ça va être sympa. Ensuite, on va finir par un quiz.
Un quiz
de Vic, parce que de toute façon en 2020 sous le signe du quiz pour Vic, hein, clairement.
Exactement. On est un peu chill là.
Mais c'est
pas mal.
Là on est en janvier hiver et tout.
Ouais, ouais, pour nous c'est le premier épisode enregistré en 2020. Vous avez pris des bonnes résolutions ou pas?
J'en ai pris plein, mais j'ai pris plein de bonnes
Florian,
résolutions que je pouvais vraiment réaliser, tu vois.
Vas-y.
Genre l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais décidé d'arrêter de fumer.
Ouais. Ah oui, c'est vrai.
On
va faire un bilan, c'est ça?
Ah bah ça, non.
Échoué.
J'ai pas réussi à arrêter de fumer. Par contre, j'ai réussi à. Je sais pas si j'en avais parlé au podcast. J'ai réussi à construire plus de choses de mes mains.
C'est bien, bravo.
J'ai réussi à prendre plus de temps pour moi.
T'as pris des skills en craft un peu?
Ah, j'ai pris du skill en craft, c'est bien. Dingue, quoi.
Et du coup, nouvelle résolution pour cette année?
Alors, cette année, plusieurs choses. J'ai décidé de lancer mon projet de cabane. Mon projet de tiny house.
Tu es vraiment le produit de ton époque.
Oui, exactement. Ouais.
Ouais, c'est, mais en même temps, c'est pas mal. Du coup, tu veux faire quoi? Tu veux te prendre un terrain et...
Prendre un petit terrain, si possible, au bord d'un étang, ou au bord d'un lac, au bord des rivières, tu vois.
C'est bien.
Avec un arbre, peut-être même des arbres fruitiers.
Ça, je suis chaud. Est-ce qu'on pourrait lancer un podcast survivaliste?
On pourrait lancer un podcast survivaliste. On pourrait se faire des chroniques d'horreur dans ma cabane quand elle sera construite. Je pense qu'on a le temps de voir venir. Hein. Là, cette année, je vais juste commencer le projet, tu vois, le temps de le faire.
On s'en reparle dans un an, Florian. Merci.
De rien.
Merci pour ton intervention. Vic, toi t'es pas très bonne résolution, mais...
Mais bonne résolution, je dirais que c'est couper des arbres quand ils menacent de tomber et aussi faire des confitures.
Mais clairement, allez les garçons, podcast néo-ruraux, retour aux sources, c'est vraiment terrible. Moi, c'est, vous vous rappelez, il y a un an, je vous avais dit que je voulais devenir un adulte.
Ouais. Et alors, du coup, t'en es où?
Alors, j'étais en bonne voie sur les, disons, les trois quarts de l'année.
C'est bien déjà.
La vie d'Aloca m'a rattrapé sur la fin de l'année, comme vous avez pu le remarquer. Et là, par exemple, aujourd'hui, je suis en lendemain de fuite.
Ah, classique.
Néanmoins, vous êtes au courant que je me suis mis aux chaussons japonais. Bien ça, c'est des trucs d'adultes, les chaussons. Cette année, je commence l'année avec le. J'ai noté, comment on appelle ça déjà? Des vêtements thermolactiles japonais.
J'ai déjà vu ça. Ouais,
j'ai acheté des vêtements thermolactiles. Donc là aujourd'hui, là, Vic, il le sait pas, il me regarde avec une tête. Je vais vous montrer.
T'as mis un legging.
J'ai mis un. Non, c'est un vêtement thermolactile. Ouais.
C'est un vêtement e-tech de chez Uniqlo.
Et autant dire que ça, en termes d'adulting, je me foutais de la gueule de Florian et de sa doudoune sans manches. Je pense que je suis passé au-dessus.
Non, là c'est un step bien au-dessus. Hein.
T'es adulting asiatique. Enfin, tes côtés, c'est très japonais là. Jusque là, les chaussons japonais, les vêtements thermolactiles.
En soi, c'est très français. Normalement, c'est Damar qui fait ça, tu vois. Mais la version Uniqlo en jette un petit peu plus.
Ouais, parce que là, c'est moins cher, je crois.
Puis c'est adulte niveau très très vieux Damar. Hein. Là, c'était quasiment mort. Hein. C'est six pieds sous terre pour reboucler avec le thème. C'est pas bon. Voilà.
Non, moi, je te comprends pour le thermolactile. C'est un truc très agréable. Moi qui conduis des deux roues dans Paris et France et Navarre.
Moi, je conduis pas deux roues, mais bon, pas loin, quoi. Et c'est quand même juste un plaisir fou. Et quand tu l'enlèves. T'as vraiment l'impression d'enlever ta peau.
C'est ça.
Tu te sens plus que nu. Tu te dis, mais il y a cette possibilité d'être encore plus nu que la nudité. C'est enlever son vêtement thermodactyle.
C'est quoi conduire un
pterodactyle, vêtement pterodactyle. Je sais pas.
C'est quoi de conduire un deux roues pas loin? Je conduis pas des deux roues, mais pas loin.
Bah, en fait, je conduis mes deux pieds.
D'accord.
Ce qui est déjà pas mal.
Non, c'est vrai que tu marches beaucoup.
Je marche, je suis un grand marcheur. Mais ça, c'est mon côté aussi néo-rural. Ouais. J'aime bien marcher, j'aime bien marcher dans les sous-bois.
C'est ton côté Jean Lassalle. Tu marches beaucoup.
Putain, je sais pas comment je te. Très bien, tu pas de politique de rien les garçons. On fait que du survivalisme, on coupe des arbres et on met des vêtements moulants. C'est tout, c'est le concept du podcast. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une première chronique?
On va enchaîner avec la tienne.
On commence avec la mienne.
Parlons d'IA.
C'est allez. Parti.
La fête infinie.
Comme souvent, il y a plus de joueurs sur le terrain que de spectateurs venus voir le match dans les gradins. Les infrastructures sportives les plus récentes sont conçues pour répondre à cette non-demande, mais ce n'est pas le cas de la vieille salle Omnisport de Mulhouse, qui présente de vastes tribunes inutiles. Avant, il y avait des joueurs et des spectateurs. Maintenant, tout le monde veut être joueur. Tout le monde veut être joueur parce que tout le monde peut être joueur. C'est ainsi. Si le monde était un orchestre symphonique, il serait peuplé de milliards de premiers violons pour quelques centaines de joueurs de triangle. Pour assister à la rencontre du jour, c'est seulement 4 supporters qui ont fait le déplacement. Ou plutôt 3. Le quatrième supporter est en réalité le cousin de l'un des joueurs. Il en va de même pour les arbitres. Personne ne veut être arbitre. Et d'ailleurs, plus personne n'est arbitre. Comme partout, ce rôle ingrat est assuré par des intelligences artificielles qui n'auront jamais envie de se mettre au violon. Constant était lié au Mulhouse Basket Club. Il n'est pas particulièrement grand, pas particulièrement talentueux, ni même passionné de basket, mais les journées sont longues et il faut bien s'occuper. Son équipe affronte aujourd'hui le Sporting Guéret, fraîchement débarqué de la Creuse. Le Mulhouse Basket Club mène 99 à 84, et Constant est sur le point d'inscrire un panier à 3 points. Au premier abord, il n'a donc pas de raison de sangloter. Pourtant, tandis que la balle traverse les airs en direction du panier adverse, ce sont bien des larmes qui coulent le long de ses joues empourprées par l'effort. 102 à 84. Balle au Sporting Guéret. Constant renifle bruyamment. De curieux sons aigus s'échappent de sa bouche en forme de calamar frit. Personne ne peut plus faire semblant de ne pas l'avoir remarqué, et ses sanglots sont contagieux. Le joueur adverse supposé engager la reprise essuie ses yeux humides. Il passe à un joueur qui pleurniche en dribblant. Le ballon atterrit dans les mains du meneur du Mulhouse Basket Club qui se dirige vers le fond du terrain en hoquetant. 2 points plus tard, les 10 joueurs sur le terrain pleurent à chaudes larmes tout en continuant à disputer le match. Simultanément, le public se joint au basketteur dans cette harmonie lacrymale. Personne ne cache ses larmes, tout le monde chiale. C'est une ambiance de premier jour de l'école maternelle qui s'installe pendant le dernier quart-temps. Enfin, l'intelligence artificielle arbitre indique sans empathie aucune la fin du match. 110 à 90, le Mulhouse Basket Club est victorieux. Les 5 joueurs de l'équipe se sautent dans les bras et se frappent les mains tout en chouinant, le nez morveux et les yeux rouges. Ils quittent le terrain pour rejoindre les vestiaires. Les spectateurs se mouchent et se dirigent vers la sortie. Enveloppé dans son peignoir blanc en coton de première qualité, Constant se tient immobile devant le grille-pain intelligent. Il s'est levé il y a peu, il y a exactement 7 minutes et 25 secondes. Et il n'est pas encore réveillé à 100%. Il est seulement réveillé à 75%. Suffisamment toutefois pour ne pas sursauter quand les tranches de pain grillé surgissent dans un bruit de ressort des deux fentes métalliques du grille-pain. Elles sont parfaitement grillées. Son grille-pain fait partie des nouveaux objets du quotidien dans lequel on a incorporé une intelligence artificielle, et griller du pain, c'est complètement dans les cordes d'une intelligence artificielle. En avalant mécaniquement ses tartines, Constant ouvre le journal du jour pour le feuilleter avec une attention et une implication médiocres. Société. Les travaux d'agrandissement du cimetière de Mulhouse touchent à leur fin. Les nouveaux secteurs promis par le maire seront livrés à la fin du mois. C'est 7000 nouveaux emplacements qui permettront d'apporter une réponse à la crise de mortalité mondiale. Sport. Constant cherche son match de la veille dans la liste des nombreux événements sportifs qui ont eu lieu hier à Mulhouse, mais ne le trouve pas. Météo des suicides. À la place de la traditionnelle page météo devenue inutile depuis que le climat est contrôlé par télécommande, la météo des suicides mesure pudiquement la progression du désespoir intérieur brut. Le petit pictogramme de la météo des suicides présente un grand soleil souriant sur fond vert. Hier était donc une bonne journée. Seulement 50 suicides. Culture. Plus personne n'écrit de romans. Plus personne n'écrit tout court en fait. Mais n'importe quel grille-pain est capable de produire 3 ou 4 chefs-d'œuvre en 24 heures de travail. Nous vivons un âge d'or de la littérature. C'est en tout cas ce que disent les éditeurs. Science. Plus qu'une semaine avant l'arrivée tant attendue de la notice. Depuis 11 ans, l'ensemble des intelligences artificielles du monde ont été mises en réseau dans le but de trouver le sens de la vie. 33,33% de leurs CPU sont dédiés à cette tâche complexe, mais à la portée de ces technologies de pointe en constante auto-amélioration. La sortie du bréviaire, appelé Notice, que produiront les intelligences artificielles, est estimée pour dans 7 petites journées, comme le laisse entendre la barre d'avancement complète à 99%, nerveusement retransmise sur écran géant partout dans le monde. Constant ferme le journal et le dépose sur la table. Il jette un œil à son grille-pain, à 33,33% en train de travailler sur une infime partie de la notice, puis il pense à comment il va remplir cette nouvelle journée. Il s'agit d'être créatif. Depuis l'avènement des intelligences artificielles, plus personne n'a besoin de travailler. Chacun peut enfin disposer de sa vie comme il l'entend. L'objectif de liberté et de prospérité vers lequel a tendu l'humanité depuis toujours a enfin été atteint. Constant est maintenant réveillé à 100%. Et comme chaque matin lorsqu'il atteint ce palier maximal de lucidité, il verse une petite larme en se dirigeant vers la salle de bain. Dans un monde parfaitement sous contrôle, le pique-nique est l'une des rares activités comportant une part d'imprévu potentiel grâce aux, à cause des, fourmis. Aucune intelligence artificielle ni aucun supercalculateur ne sont capables d'empêcher une invasion de fourmis pendant un pique-nique entre amis. Dès lors, on explique souvent le succès croissant de cette pratique sociale par notre inclination naturelle pour l'aventure. Constant est justement installé entre le taboulé et la piémontaise à l'occasion d'un petit pique-nique entre amis au parc Steinbach. Il est accompagné de 3 amis. Une amie à l'apparence fragile, qui a tendance à déglutir au commencement de la plupart des phrases qu'elle prononce, créant chez ses interlocuteurs l'impression d'avoir face à soi une personne craintive et anxieuse. Une seconde amie qui, à l'inverse, semble exagérément sûre d'elle, en grande partie à cause de sa voix faussement basse et grésillante qui crépite comme de l'huile sur le feu. Un troisième ami aux grands yeux clairs, comme ceux d'une poupée en plastique qui n'essaye même pas d'avoir l'air réaliste. Comme d'habitude, la discussion tourne autour de sujets peu susceptibles d'exciter les passions. Jusqu'à ce que l'ami à la voix grésillante évoque une grande fête qui aura lieu dans un mois. La plus grande fête de tous les temps, sortie définitive, elle ne s'arrêtera pas avant qu'il n'y ait plus personne dedans. Du coup, elle peut potentiellement s'étendre sur 20 ans. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce qui se passera. Ça s'appelle la fête infinie. Cette annonce semble rendre la vie à l'ami aux grands yeux clairs. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis toujours, ses yeux brillent d'une flamme humaine. Ses expressions du visage ne sont plus celles d'un Ken figé. La fête infinie ? Quel genre de fête c'est ce truc ? Et l'ami à l'apparence fragile de répondre « J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Elle aura lieu le mois prochain. Sa voix est tremblante, du moins pas plus que d'accoutumée. Et ce phénomène n'est pas le syndrome d'une peine particulière, du moins pas plus que d'accoutumée. Elle aura lieu le mois prochain, dans une petite ville abandonnée de Haute-Marne. Il y aura de la place pour des milliers de personnes. Il y en a même qui parlent d'y rester pour toujours. » L'ami aux grands yeux clairs se tait. Tout le monde se tait. Comprenant l'intérêt que cette nouvelle suscite chez ses camarades, l'ami à l'apparence fragile ajoute « Il vaut peut-être mieux attendre que les IA nous donnent la notice. » On ne sait jamais ce qu'elles auront à nous dire. Un nouveau silence, pesant cette fois. L'ami à l'apparence fragile n'a rien dit, mais parfois, rien, c'est déjà beaucoup trop. Comme un coffre verrouillé dans un coffre verrouillé, il y a des choses indicibles dont on ne veut en plus pas parler. Constant, lui, cherche des yeux ne serait-ce qu'une fourmi. Tant pis pour l'invasion. Une seule fourmi serait suffisante. Une minuscule fourmi qui s'aventurait vers la salade de pâtes ou le cake au thon. Mais il n'y a que 4, mutiques et assis sur une nappe blanche à carreaux gris. Enveloppé dans son peignoir blanc en coton de première qualité, Constant se tient immobile devant le grille-pain intelligent. Dans un monde automatique, les jours se suivent et se ressemblent. Pourtant, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est d'ailleurs écrit dans le journal que tient Constant entre ses mains. Ce matin, d'une seconde à l'autre, les intelligences artificielles vont enfin offrir la notice à l'humanité. Toutes ces années de calcul pour enfin comprendre les mystères de l'existence. Constant a une boule dans la gorge et un poids infini lui pèse sur la poitrine. Une odeur de brûlé envahit la pièce. Mais cette sensation n'est pas une métaphore synesthésique de l'état mental de Constant. Le grille-pain supposément intelligent, supposément en train de finaliser sa part de la notice, est en train de laisser brûler les tartines de Constant. Existe-t-il un libre arbitre ? Nos décisions sont-elles les conséquences d'une infinité de causes ? Sommes-nous prisonniers de notre destinée ? Voici quelques-unes des questions qui auraient dû trouver une réponse dans la notice, expliquant par là même si Constant s'est finalement rendu à cette fête infinie de son propre chef, ou si sa liberté n'est en réalité qu'une illusion. Mais maintenant que l'espoir de la notice s'est envolé, qui peut dire pourquoi Constant est bel et bien en train de danser dans cette ville fantôme, sans s'amuser, sans même bouger en rythme puisqu'il n'écoute pas la musique ? Qui peut dire pourquoi Constant est juste là, noyé dans l'obscurité et les 110 décibels crachés par les enceintes ? Personne. Et certainement pas son grille-pain, certainement pas les intelligences artificielles. Il va falloir faire avec. Constant va devoir faire avec. Il va devoir continuer à danser dans un monde muet, déraisonnable. Il va devoir continuer à danser en sachant que les intelligences artificielles du monde entier ont délibérément décidé de se donner la mort à la seconde même où la notice leur était apparue. Il va devoir continuer à danser en sachant rien d'autre que ça, avec ce renoncement massif comme seul indice du sens de la vie, sans personne pour l'aider, seul avec les autres, danser seul, sans notice.
Attention, c'est parti!
Yeah!
Pas de débat, on s'en fout, allez, on danse on maintenant!
On n'a jamais mis de la musique comme ça dans Aliéné les garçons.
Si, j'avais fait un truc un peu. C'était même, je crois, au début de la chronique, c'était horrible à lire.
Ah ouais, je te confirme.
Ouais. Donc on n'arrivera jamais à avoir une réponse à la grande question de la vie.
Un petit fait d'autre de ouf. Alors, du moins, peut-être que si. De toute façon, je pense que la question n'existe pas. C'est une arnaque intellectuelle,
c'était
tout ça.
Un petit hommage à Douglas Adams, du coup.
Un petit peu, ouais. Ouais. Et du coup, moi, en tout cas, j'aimais bien l'idée d'imaginer des robots capables de le trouver, cette réponse-là. Enfin, des IA capables de trouver cette réponse. Mmh. Et en trouvant la réponse, se rendre compte que vraiment.
C'est suicide.
Ouais, la vie.
C'est là-haut, ça pue.
Ouais, c'est genre vraiment, c'est la merde. Et on se suicide. Et du coup, nous, les êtres humains, on serait là en train de se dire. Putain, ils ont eu la réponse et ils se sont foutus en l'air. Et genre déjà ils sont pas. Donc clairement, vous avez compris qu'ils étaient pas bien dans leur vie tous ces gens.
C'est clair.
Et tu te dis oh putain. Enfin, moi ça me faisait rigoler. Ça me faisait rigoler de. Je sais pas si vous avez des questions. D'autre cas, d'écrire une utopie, une vraie utopie où les gens n'ont plus besoin de travailler parce que les IA font leur travail à la place. Bon, c'est pas trop comment. Je vais pas entrer dans les détails.
Ça se sent quand même vite que ton utopie est moisie, quoi.
Bah oui, parce même qu'en fait tous ces gens-là, ça souffle sur un match de basket où tout le monde pleure.
Ouais. Et du coup, pourquoi ça doit être un truc super évident que j'ai pas capté, mais pourquoi tu dis qu'il y a plus personne ne veut jouer le supporter, c'est parce qu'ils ont du temps du coup.
Parce qu'en fait, ils ont plein de temps. Lui, il se met au basket parce que
par rapport au fait de pas être supporter, ça, je comprends le côté d'avoir du temps. Par contre, je suis pas sûr que si on avait du temps, on voudrait faire du sport. Je pense que si les gens n'ont pas de sport, c'est pas qu'ils ont pas de temps.
C'était pas crucial. C'était juste pour dire qu'il y a des gens avaient tellement de temps que j'imaginais un monde où genre tout le monde était dans 5 sports différents et voilà. Et ce qui explique aussi pourquoi
il y a moins de gens aussi. Donc du coup, moins de gens, moins de supporters. Il y a 50 suicides la veille.
En tout cas, si un arbitre professionnel ou amateur nous écoute, désolé,
il doit être très en colère.
Vrai, c'est ça, il doit être en colère contre toi.
À chaque nouvelle chronique, on s'excuse. Quand c'est pas les Bretons, c'est les arbitres. Quand c'est pas les arbitres, c'est les Allemands.
Il faudrait qu'on tienne une liste des potentiels podcasts.
La liste des gens offensés par Aliens et les garçons. Elle est longue.
Ça va très longue. C'est mignon.
Et du coup, j'imaginais ce monde-là où les gens n'ont plus besoin de travailler, ils ont le divertissement pur, ils ont du temps libre, et du coup, ils se rendent compte combien l'existence est vaine, parce que maintenant, ça y est, ils n'ont plus de pression. En plus, ils imaginent que du coup, ils se tombent plus malades, ils sont soignés facilement.
Tu veux dire, ce qui ne rend pas vain l'existence, c'est la pression.
Non, mais du coup, c'est
la pression du travail.
C'est une forme d'esquive, tu vois, comme je crois que
c'est ça.
Ouais, ça te permet, mine de rien, de t'émanciper, de penser, pas de t'émanciper, mais en tout cas, de penser à autre chose, et parfois de t'émanciper selon tes pensées.
C'est vraiment triste.
Oui, c'est un peu un peu triste, mais finalement, non, je trouve.
Pour parler de choses moins tristes, tu imagines le grille-pain du futur comme. C'est quand même un grille-pain qui jette deux tartines en l'air par deux fentes, en fait. Je suis quand même super déçu.
C'est, la même chose,
c'est peut-être ma plus grosse déception. J'ai beaucoup aimé la chronique, par contre, ma grosse déception, c'est quand même de me dire que le grille-pain du futur, il jette juste deux tranches de pain par deux fentes
en l'air. Parfaitement grillé.
Mais en même temps, c'est,
Nul, quoi.
C'est exactement vers ce vers quoi on se dirige.
Oui, mais t'as envie d'avoir un grille-pain de je sais pas, tu mets même pas de tranche de pain, c'est lui qui crée la tranche de pain.
Il imprime le pain directement au grille.
Non, j'étais un peu déçu de ça, voilà, c'est tout.
Mais bon, c'est pourtant comme ça que ça se passe. Hein. Quand tu regardes par rapport à il y a 30 ans, notre grille-pain, il est exactement pareil. Hein, donc...
Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sache que les grille-pains à l'ancienne, tu mettais ton pain, ton pain contre une résistance.
Oui, c'est vrai.
Contre une résistance. Mm-hmm. Ensuite, tu viens la fermer comme ça par-dessus.
On a fait de gros progrès.
Tu réouvres le truc et tu sors ton pain.
On a fait de gros progrès techniques en termes de grille-pain.
En tout cas, depuis que je suis né, j'ai pas vu de différence entre le grille-pain que j'avais quand j'étais petit et le grille-pain que j'ai maintenant. Quoi.
C'est sûr, mais depuis que t'es né, il y a plein de choses, t'as pas vu de différence. Ouais.
Pour ou contre les grille-pains, Aline et les garçons se mouillent, elle va vous répondre tout de suite. Non, en effet, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je voulais aussi coller à un monde. Déjà, j'avais pas envie de décrire un monde où c'est compliqué pour moi en termes de création. Je voulais garder le même monde.
Je te donne mes déceptions.
Je comprends, je les prends et je les mets dans ma bouche et je les avale. Des déceptions. Ok.
Très bien.
À toi de deviner ce qu'elles vont devenir.
Non, je suis tout à fait d'accord. Par contre, attendez, je suis quand même pas un chien. Déjà, je vous ai mis la musique de Space Jam au début, donc je suis quand même pas un chien.
C'est pas que Space Jam, c'est la musique de manière générale du basket. Au début du basketball.
Oui, mais c'est Space Jam
aux USA.
Et non, je vous ai quand même en termes de technologie de ouf, la météo est contrôlée par télécommande.
Ouais, c'est vrai,
Je voulais terminer par cette question.
Oui.
Je me suis noté climat contrôlé par télécommande, mais qui tient la télécommande?
C'est exactement qui a la télécommande.
En fait, c'était une question.
Au début, j'avais écrit, pendant le pique-nique, j'avais écrit qu'ils avaient une télécommande, parce que pour moi, c'était genre, tu pouvais contrôler genre 10 mètres carrés de ciel au-dessus
et
de toi.
Et du coup, tu peux le louer.
Mais du coup, ouais, alors en fait, du coup, en effet, vu que vous avez compris que ça ne servait pas le propos de ce que je voulais dire, donc c'était juste une blague que j'avais mis et ça n'avait pas le coup de le développer. Donc oui, dans ma tête, c'était tout le monde avait ça.
Ah,
et
cool.
Tu pouvais décider de. Tu veux de la neige? Bah, tu fais de la neige dans ton jardin.
Et tu sais quoi, en plus, c'est même qu'il est traqué sur toi, ce qui fait que quand tu te déplaces, ça te suit aussi. Donc tu peux avoir genre, triste. Tu peux avoir toute la journée.
Tu pourras avoir des manifestants dans des stations de ski qui viennent arrêter la neige.
Ouais,
ils passent comme ça, ils font arrêter la neige et tout. Allez, on est dans le cul là.
Ou ils mettent de la grêle.
Le bordel.
Voilà,
super.
Donc ouais, ça c'était, tu vois quand même, Vic, je pense à toi, je t'ai mis une technologie un peu du futur.
Elle m'a interloqué, ouais.
De quoi d'autre? Si, je voulais vous parler de désespoir intérieur brut aussi. J'aimais bien le désespoir intérieur brut.
Le DIB.
J'ai failli le développer plus aussi. Mais même chose, ça servait pas le truc, c'était complexe, mais on pourrait avoir ça. On pourrait avoir le désespoir intérieur brut.
Oui, c'est vrai.
On y vient, on va vers l'époque du désespoir intérieur brut.
Il y a des chances.
En tout cas, de pouvoir le quantifier et de faire en sorte que les décisions du pays soient
prises
en fonction de ça, ça peut être intéressant.
Voilà.
Moi, j'avais une réflexion par rapport à Florian. Notamment la fête de. C'est un peu la fête infinie. Est-ce que il y a un lien avec Sabrina Calvo, Wonderful?
Non, pas du tout, mais j'y avais pas pensé, c'est vrai. Il y a Sabrina Calvo, donc Wonderful, édité je ne sais plus où. Brazilian, je crois. Moi, je sais plus. Et en tout cas, c'est donc Sabrina Calvo qu'on peut aussi trouver à l'époque sous le nom de David Calvo.
Bah, en tout cas, Wonderful, c'est David Calvo.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais réédité sous le nom de Sabrina Calvo, je crois. peut-être. Je sais plus, moi, peu importe.
À 19h04. Disponible sur www.
Et du coup, pour expliquer aux auditeurs, tant bien que mal.
Sens du détail.
Et ça se passe à la fin du monde, à Londres.
C'est ça, c'est l'apocalypse.
Moi, je l'ai pas eu depuis longtemps. Et du coup, il y a plein de gens qui organisent des choses parce que c'est la fin du monde. Mm-hmm. Et notamment, il y a un bal qui se crée.
Dernier bal. Ouais.
Et ça, c'est un marathon de danse, même pour être exact. Ça. Dans le sens où les gens vont danser pendant des heures jusqu'à ce que la lune s'écrase sur la Terre, parce que c'est comme ça que termine la Terre. C'est pas un spoil, ils le disent dès le début. Hein.
Oh oui, c'est la couverture d'ailleurs.
C'est la couverture, ouais, peut-être. Et en effet, non, j'y avais pas pensé parce que la fête que j'avais mis en place, c'était plus une forme de nihilisme flagrant. Tu vois, genre, tu te dis, ok, de toute façon, rien n'a de sens. On va aller dans une fête qui ne finit jamais. Et les gens vont danser sans même écouter de la musique, ils vont juste secouer. C'était un peu gratos, et puis j'avais envie de passer de la musique un peu comme ça.
Alors, je ne vous cache pas que m'occupant du quiz final, je me suis un petit peu renseigné sur la mort sous toutes ses formes. Mm-hmm. Et du coup, je suis tombé
un peu goth aussi.
Et je suis tombé sur quelque chose qui est assez connu aussi, mais il y a eu une fête comme ça qui a duré un mois au Moyen-Âge où les gens dansaient pendant un mois.
Il y a un bouquin qui est sorti sur ça il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois.
Effectivement, ça me dit quelque chose.
Et les gens sont devenus fous en fait.
Alors, je sais pas si les gens sont devenus fous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui sont morts d'épuisement.
Ouais, ouais. Mais je crois que les gens étaient très en colère parce qu'ils avaient plein d'emmerdes de santé, enfin de maladies. Il y avait les seniors devaient faire les cons avec eux, et les gens, ils ont tellement pété un gap qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à danser frénétiquement dans la rue, et tout le monde s'y est mis, et les gens ont continué jusqu'à ce qu'ils meurent. Apparemment, c'est factuel et historique.
Wow, c'est dingue,
c'est fascinant. Il faudrait qu'on retrouve le bouquin. On va essayer de vous le retrouver d'ici la fin de l'épisode pendant une pause. Voilà.
Super. Voilà. C'est bien.
Et bah c'est super. Bravo. Je suis content que ça vous ait plu. Je suis content que Constant vous ait plu. Et puis voilà. Et on va passer directement à la chronique.
C'est la mienne, je crois.
De Florian, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et bah tu nous parles de quoi déjà ?
Je vous parle d'un monde souterrain.
Un monde souterrain, on aime bien. Allez.
Pour 4 grammes de fer.
Fin du cycle numéro 19983. Z vient de terminer sa dure journée de travail et se dirige vers la cellule Z942. Cette cellule, c'est la sienne. Impossible de l'oublier car il porte son nom, Z942. Mais il préfère qu'on l'appelle Z. Une manière de se distinguer de ses prédécesseurs, les anciens locataires de la cellule Z942. En rentrant dans ce taudis insalubre, il jette son matériel sur la surface en pierre qui lui sert de couchette. Il enlève ses vêtements, sali par le travail, lorsqu'il croise son reflet dans le miroir de fortune fabriqué par un ancien occupant. Son visage et ses mains sont si noirs qu'il les distingue à peine. Seules les deux billes blanches, percées en leur centre par une tache sombre, se détachent du reste de la silhouette. Il s'assoit ensuite à table, mange un morceau de pain dur trempé dans de l'eau chaude, puis s'allonge sur ce qui lui sert de lit. Au-dessus de celui-ci, ses ancêtres ont gravé dans la roche, chacun dans un style différent, le nombre de cycles qu'ils ont passés dans cette pièce lugubre. À vue de nez, une dizaine de milliers, certains un peu plus, d'autres un peu moins. D'un geste lent et cérémonieux, il prend un morceau de granit affûté et creuse la paroi de la grotte, ajoutant un segment à une spirale qui recouvre déjà une bonne partie des autres calendriers. Il s'endort rapidement, épuisé par le poids du dur labeur. Le lendemain, il est réveillé par la sonnerie de son bracelet d'identification. Début du cycle numéro 19984.
Habitants de la colonie souterraine d'Antenora, notre planète se meurt. Depuis 1000 ans, la surface de la planète subit les ravages des pires cataclysmes de son histoire. Ces catastrophes sont les conséquences indirectes de l'épuisement du noyau d'Antenora, et avec lui, la lente disparition de notre magnétosphère. Les efforts conjoints de la communauté internationale n'ont pas suffi à résoudre cette crise mondiale. Ici, à la compagnie, la survie de notre espèce est notre priorité. C'est pourquoi nous avons entrepris la construction de Spark, la plus grande centrale à fusion qu'Antenora n'ait jamais connue. Une installation titanesque qui s'étend autour du noyau interne de notre planète et maintient le magma qui le constitue en perpétuelle fusion. Mais nous avons besoin de votre aide pour mener à bien ce projet. Chers habitants de la colonie souterraine d'Antenora, vous avez l'honneur d'avoir été choisis par la compagnie pour effectuer la glorieuse tâche de sauver le monde. Votre directeur de section va désormais vous assigner une fonction et vous indiquer votre cellule d'habitation. Grâce à vous, un avenir meilleur est possible pour notre civilisation.
Chaque début de cycle, Z doit passer devant le centre de formation pour aller au transporteur qui l'amène à son poste de minage. Les nouvelles recrues sont toujours pleines d'espoir. Il l'était lui aussi quand il a commencé, galvanisé par la promesse d'une gloire éternelle. Il a très vite compris qu'il ne faisait pas partie d'une classe de braves héros, prêts à tout pour sauver la planète, mais plutôt d'une classe d'ouvriers, sacrifiés sur l'autel du développement économique et du confort d'une petite frange de la population vivant encore à la surface. Le Spark, tout comme le noyau interne d'Antenora, fonctionne en fusionnant les atomes de fer, et c'est à une centaine de kilomètres en dessous de la surface qu'on en trouve en très grande quantité. Impossible pour une machine de creuser si profond. La compagnie a donc trouvé le moyen le plus efficace et le moins cher d'extraire ce minerai, l'être humain. Encore faut-il qu'il puisse survivre à de pareilles conditions. À cette profondeur, les températures avoisinent les 6000 degrés Celsius. La compagnie a alors dû développer des trésors d'ingéniosité pour créer la première colonie, terraformant cette couche de roche en un espace habitable équivalent à la taille d'une petite ville. Au fil du temps, cette petite ville est devenue un continent qui s'étend désormais tout autour du globe, dans un dédale de couloirs désorganisés, reliés par des cités dortoirs de taille variable. Une véritable planète sous la planète. Ce n'est pas pour autant qu'il y fait bon vivre. Malgré la toute-puissante technologie de la compagnie, il règne dans Sub-Antenora une chaleur étouffante, entre 60 et 80 degrés Celsius. À cela s'ajoutent l'air vicié par les gaz d'échappement des machines d'extraction et la surpopulation. La courte vie d'un sub-antenorien se résume alors bien souvent à naître, travailler, et mourir dans les mines pendant que quelques privilégiés vivent en surface sans se préoccuper du lendemain. Les perspectives d'un avenir meilleur sont limitées pour ceux qui ont la malchance de voir le jour sous terre. Mais il existe tout de même une échappatoire. Cycle numéro 20 000. Z débute son dernier cycle. Il aimerait éclater de joie dans sa cellule, mais même sourire le fait souffrir. Il y grave le dernier segment de sa spirale en avance, car il sait qu'il ne remettra plus jamais les pieds ici. Il prend les rares effets personnels qu'il avait accumulés pendant ses cycles et les fourre dans un petit sac en tissu qu'il a lui-même fabriqué. Sur le pas de la porte, il jette un dernier regard à sa piole. Tout est comme il l'avait trouvé, il y a 15 000 cycles. Il ferme la porte en essuyant une espèce de goutte d'eau qui glisse le long de sa joue. Une fois arrivé à son poste de minage, il oublie tout. La douleur, les mauvais souvenirs, les périodes de famine, il n'a qu'une seule chose en tête, l'ascension. Cette récompense qu'on offre aux plus valeureux travailleurs qui ont vécu 20 000 cycles à Subantenora. Un chiffre qui lui semblait énorme quand il était jeune. Autour de lui, personne ne l'a jamais atteint. Mais les anciens du secteur ont tous des histoires à raconter autour d'un tel ou d'un autre qui a réussi à atteindre cet objectif. Aucune de ces histoires ne se ressemble, mais elles ont toutes un point commun. La fin du 20 000e cycle, le bracelet d'identification de l'ouvrier sonne. L'écran indique alors un itinéraire à suivre, menant jusqu'à une pièce d'un blanc immaculé dans laquelle se trouve uniquement un tube métallique carré qui se prolonge du sol au plafond. L'ouvrier se présente alors devant ce tube qui ne s'ouvre qu'après avoir scanné le bracelet d'identification. Une fois dedans, l'objet emmène ensuite l'ouvrier jusqu'à la surface de la planète où il peut vivre heureux le restant de ses jours. Zen ne se fait pas d'illusions, tout n'est certainement pas vrai, mais il a pourtant bel et bien reçu un courrier 50 cycles plus tôt.
Chers habitants de la colonie souterraine d'Antenora, vous avez rempli votre devoir de citoyen durant 20 000 cycles et il est temps pour vous de vous récolter les fruits de votre dur labeur. La compagnie souhaite vous récompenser pour l'avoir servi avec honneur durant toute votre vie. Vous allez désormais pouvoir profiter d'une retraite paisible où vous n'aurez plus à vous préoccuper des besoins matériels et des problèmes de la vie quotidienne. Chers habitants de la colonie, un avenir meilleur s'offre à vous. Lorsque le moment viendra, suivez les instructions de votre bracelet d'identification. Cordialement, la compagnie.
Et le moment est venu. La tête ailleurs, Zen n'a pas vu le temps passer. Il est encore en train de piocher quand le bracelet se met à sonner. Le cycle n'est pourtant pas complètement terminé. Un rapide coup d'œil lui apporte la confirmation. Les autres ouvriers n'ont pas encore fini de travailler. Les yeux se lèvent petit à petit vers lui alors que les pioches s'abaissent vers le sol. Une clameur soudaine éclate, suivie d'une vague d'applaudissements qui remplit un à un les couloirs de la mine. Sous le choc, Z s'arrête alors de travailler. Une flèche est apparue sur le bracelet, lui indiquant la direction à prendre. Il débute sa marche, lente, titubante, jusqu'à son destin. Il remonte les corridors qu'il connaît si bien. Chaque coin, chaque recoin, il les a déjà parcourus maintes et maintes fois, mais il ne les regarde plus de la même façon. C'est la dernière fois qu'il a la chance d'apercevoir ces pierres, ces murs, et ces visages noircis par la vie qui se mêlent au paysage. Donc il les observe, en essayant d'en mémoriser chaque détail avant de partir pour de bon. Soudainement, il ralentit, et regarde droit devant lui, comme s'il venait de sortir d'un rêve. Ses pieds l'ont amené vers un couloir qu'il ne connaît pas. À cet endroit, les murs se resserrent et forment un entonnoir. Au bout du chemin, une faible lueur émane de ce qui ressemble à une porte. Alors qu'il avance lentement le long du passage, ses épaules frottent presque contre les murs. Il peut désormais distinguer clairement une lourde porte en métal. Lorsqu'il arrive au bout du chemin, il pose la main sur la poignée. Son bracelet sonne, comme pour valider le passage. La porte s'ouvre. La pièce est à peine plus grande que lui. Il entre. L'incinération ne dure que quelques minutes. Une fois le processus terminé, les cendres de Zen 942 sont jetées dans le conduit d'alimentation du Spark. Les 4 grammes de fer du corps de l'ouvrier viennent s'ajouter et se mélanger au magma bouillonnant du noyau d'Antenora. Fin du cycle pour Zen 942.
Bah, c'est pas sympa.
Allez.
C'est pas joyeux, joyeux.
On se doutait que ça allait mal tourner, ouais, pour Zed. On
ça était sentait là, genre, mauvais.
Zed, franchement, déjà ta vie, il est pas ouf, quoi. Clairement, c'est un peu c'est misérable, mais là.
Ta vie n'est pas ouf, mais quand même, avant, sur ton dernier voyage, là, avec ton Apple Watch, parce que d'ailleurs, son bracelet d'identification, t'es avec les flèches et un peu une Apple Watch avec.
Oui, clairement. Keeper, là, j'ai même repris le sound design, j'ai pris les. J'ai remixé des sons d'iPhone, etc. Ouais, donc, bon.
Mais il trouve quand même de la beauté dans la souffrance et dans son vieux couloir dégueulasse avant de.
Bah, il faut imaginer Sisyphe heureux.
Il a connu que ça, en fait. Quoi,
ouais, c'est pour ça qu'il trouve une certaine forme de nostalgie, de beauté.
Puis surtout, t'as pas le choix, c'est ton monde, donc ouais. tu vis avec. Quoi. C'est que c'est lié avec ma chronique d'avance, il faut continuer à danser, quoi qu'il arrive.
Bien sûr,
quoi.
Exactement.
Donc, il a raison, Zed. Bon, ça finit mal. Zed ou Zaïd? Il est libanais?
Non, Zed.
Ok, je voulais juste savoir.
Zed, carrément Zed. Et non, j'aimais bien l'imaginer au début comme quelqu'un qui voulait pas forcément s'attacher parce qu'il commençait à devenir vieux, tu vois, il a pas beaucoup d'effets personnels. Sa chambre, c'est comme une location, tu vois, le mec, il a rien accroché au mur ni rien, tu vois. Quoi. C'est sa vie, quoi. Et à la fin. Il se dit, j'ai peut-être quand même un espoir, de remonter en haut et de finir ma vie, même si je sais que le monde il est un peu pourri.
Est-ce que c'est
encore un espoir, quoi.
On dirait une métaphore de la religion, un truc comme ça. Ou il y a même un truc un peu, je sais que c'est pas ça, hein, mais c'est même pas parfaitement cadré comme métaphore, mais un truc un peu bouddhiste où au bout de 20 000 cycles, t'as l'ascension, genre comme si à force de réincarnation, t'accédais au nirvana finalement. Mmh. Mais
en parlant de 20 000 cycles, on est pour ou contre la retraite à 20 000 cycles? Je me demandais,
20 000 cycles, ça fait à peu près 55 ans, je crois. 55 ans, je me dis que déjà, dans ce monde-là, il fait chaud, tu travailles dur, t'as pas vraiment, tu vois. Ouais. Ta vie, c'est de la merde et tout, donc 55 ans, pour y arriver, c'est vraiment un exploit, tu vois.
Oui, parce qu'on imagine que l'espérance de vie est très basse.
Oui, mais c'est pour ça que la plupart des gens ne sont même jamais arrivés à 15 000 cycles, c'est ce qui doit correspondre à. Ouais. Je sais pas, peut-être une quarantaine d'années, tu vois. Quoi.
En même temps, en vivant sous terre comme ça, sans soleil.
Et pour ça, d'ailleurs, c'est des cycles, parce qu'il n'y a pas de journée, il n'y a pas de coucher de soleil, il n'y a pas de lever de soleil. Donc les cycles, en même temps, tu vois, la compagnie, elle peut décider de leur longueur, elle peut faire ce qu'elle veut.
Parce que du coup, un cycle, c'est. Ok, parce que c'est ça que j'ai dû décrocher à ce moment-là. Un cycle, ça dure combien de temps?
On ne le dit pas, en fait. C'est ça, mais la compagnie choisit, en fait.
D'accord.
Toute leur vie est gérée, leur temps de travail est géré par ce bip-bip qu'il y a sur leur montre, tu vois.
D'accord, ok.
Et je me demandais, ils ont eu le choix, enfin, deux questions un peu, ils ont eu le choix ou ils sont volontaires?
Ils ont pas eu le choix, ils ont pas été volontaires. Dans ma tête, en tout cas, j'imaginais que c'était une frange de la population qui avait été envoyée dans les mines pour travailler, pour justement sauver la planète.
Donc,
ils ont pas vraiment eu le choix, mais ils ont quand même une espèce de côté un peu glorieux, glorifique, tu vois, de cette tâche-là.
Si je ne m'abuse, à un moment donné, tu te dis, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de naître à la surface, sont entendus.
Ceux qui ont eu la malchance, effectivement, de naître.
Voilà, ils naissent là en bas, donc c'est une sorte de classe,
lui,
de population.
En fait, autant au début, je pense que soit peut-être que c'était un choix ou genre de choses, mais au fur et à mesure. Bah comment dire, tu nais en dessous, c'est fini, quoi.
Mais s'ils sont un peu glorifiés, etc., ce qui dit, ouais, ils se sentent comme, enfin au début en tout cas, ils se sentaient comme un guerrier, enfin quelqu'un qui allait plutôt un héros national, enfin de la colonie. Ça fait un peu penser aussi dans Tchernobyl quand
j'allais dire Tchernobyl, c'est exactement ça. Et vas-y, pardon.
Non, je disais juste, deuxième question, pourquoi colonie? Pourquoi c'est une colonie? Enfin, pourquoi tu dis colonie?
C'est une colonie parce que c'est une planète dans la planète et que j'imaginais qu'effectivement au début, les gens avaient été envoyés là, ils avaient été déplacés ici pour travailler, etc. Donc c'est une sorte de colonie de travail, tu vois, quoi.
Okay.
En tout cas, c'est tout le vocabulaire.
Ouais, parce que le terme aussi super connoté, colonie, t'imagines directement la crasse, les machins, le côté baroudeur, tu te démerdes avec, tu dors dans un truc en un placard.
C'est aussi, pour rebondir, c'est ce que tu disais sur la religion. Moi, je l'imaginais au début un peu comme ça et après, je suis quand même vite reparti sur le côté un peu entreprise qui a trouvé une solution là où la planète n'avait plus de solution. Mais il y a quand même ce côté-là avec ce vocabulaire presque dictatorial, tu vois, de glorification et de colonisation.
Qui fait complètement de la propagande, quoi. Mmh, est-ce que tu as imaginé, tu l'as pas écrit, mais est-ce que tu as imaginé un peu ou pas du tout ce qui pouvait se passer à la surface en réalité?
Non, je l'ai imaginé un petit peu. Je pense que dans ma tête, en tout cas, il n'y a plus énormément de monde à la surface parce que, mine de rien, si le noyau de la planète. S'éteint ou en tout cas baisse en activité, la magnétosphère elle est déglinguée, la tectonique des plaques c'est pareil, donc il y a énormément de cataclysmes, il y a énormément de.
Ah, donc il y a même pas une aristocratie qui.
Je pense qu'il y a une aristocratie, mais du coup dans des. Dans très resserré parce que la plus grande partie de la planète
c'est les 1%.
C'est les 1%.
C'est ces bâtards.
Ça m'a un peu fait penser pas dans la chronique ni dans l'histoire, mais dans la structure. Je sais pas si tu te souviens de ma chronique sur les vents avec
un aspiro au grand air, épisode 11. Un aspiro au grand air, épisode 11. Parce que je l'ai checké pendant la chronique parce qu'en effet, ça m'a rappelé beaucoup dans l'ambiance.
Dans l'ambiance du.
Et le côté, les classes de sous-terre et les classes au-dessus.
Et ça m'a rappelé un autre truc. Je sais pas si vous y avez joué à l'époque sur PS2, un FPS qui s'appelait Red Faction.
Ah oui.
Incarnait un mineur sur Mars qui prenait part
Alors, j'ai pas joué à celui-ci.
C'est vachement bien.
C'est trop bien. C'est un de mes jeux préférés. Red Faction 2, ouais. Mmh, t'incarnes un mineur qui c'est une révolution ouvrière, en fait, finalement.
Ouais, mais j'ai joué. C'est celui où tu pouvais casser les murs.
Et bah, c'était un des premiers jeux où tu.
Et c'était trop bien de casser le décor.
Voilà, tu cassais le décor après Battlefield, la reprise, etc. Trop bien. Ça m'a un peu fait penser à ça aussi dans l'atmosphère. Et sinon, ma petite déception, il y avait le grille-pain dans la tienne. Sur la tienne, c'est j'espérais à la fin que tu nous fasses comme dans ton Uchronie, où tu nous avais surpris sur le fait qu'en fait il revenait de la lune et il restait pas bloqué, où on avait cette impression là. Tout mène vers ok, le mec il va se faire déglinguer au bout de ses 20 000 cycles, mais peut-être que peut-être il va ouvrir et peut-être c'est vrai qu'il va vivre une super vie et ce sera fini et je serai Florian dans mes bras et je serai heureux. Et non, le mec il se fait cramer. Pourquoi les dirigeants de tout l'univers sont toujours des enculés?
Parce que le pouvoir corrompt.
Mais oui. Non mais merde, j'en ai marre.
Mais parce que c'est la réponse est dans la dernière phrase pour ces 4 grammes de fer en fait quoi. Le corps humain contient du fer et c'est une ressource rare, donc du coup on en a besoin aussi. Le cycle éternel quoi. On n'a pas le choix.
Oui, mais voilà, je te dis juste que c'était ma déception.
Non, mais de toute façon, j'ai bien compris qu'on n'était pas assez bien pour toi, Vic, que nos chroniques, elles n'étaient pas bien. Tu sais quoi, Alien et les garçons, tu vas faire Alien et le garçon tout seul. Et puis.
Non, mais on peut dire les déceptions. On est, pas, on est dans bien la partie sûr, débat. Dans sûr. Débat, il y a les pour et les
contre. Dans débat, il y a déception. En effet. Non, mais, tu as tout pardonné. Par contre, on va déglinguer ta chronique.
Mais il n'y a rien dans la chronique. C'est pas la chronique de Florent qui me déçoit, c'est le comportement des dirigeants. Ça me donne envie de pleurer.
Ça, c'est vrai, en effet, le pouvoir corrompt, c'est tous les chefs sont toujours méchants. Ah ouais. Y a pas de chef gentil.
C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent dans mes chroniques, une compagnie un petit peu surpuissante, etc. J'aime bien ça. Quoi.
Amiral Adama, il est sympa,
c'est vrai. Mais c'est parce que c'est pas un grand chef, c'est le plus petit des chefs. Ouais, dans le sens où il a le plus vieux vaisseau et tout.
Ouais, mais c'est un chef.
Bon, bref. Pour tous les auditeurs qui n'auraient pas regardé Battlestar Galactica, regardez Battlestar Galactica.
C'est le commandant. Battlestar Galactica.
Il est vieux.
Ouais, il est vieux. Et il est plus sympa que son fils. Mais bon, voilà. On vous laisse regarder.
C'est bien. Passez un bon moment. Moi, j'avais une dernière question.
Bien sûr.
Donc, concernant Zaïd. non, j'arrête. Concernant la musique, c'est quoi? J'ai bien aimé la musique.
Alors, la musique, je pourrais te la retrouver.
C'était très cinématographique.
Eh bien, c'est issu d'une playlist qui s'appelle Cinématographique Piano.
Non, c'est vrai?
Oui, pendant rien de
cash. C'est
vrai? Oui, oui.
Incroyable.
Et c'est une compositrice grecque.
Ah, Nana Mouskouri.
Tout à fait pas. non, je vais te retrouver ça tout de suite. C'est une compositrice qui s'appelle. En même temps, je vais te la retrouver, mais je ne vais pas pouvoir te la prononcer.
Ah bah oui.
Tout simplement, ça se prononce Eleni Karaindrou.
Redi ?
Eleni Karaindrou.
Redis le plus vite, plusieurs fois, très
Eleni Karaindrou, Eleni. Et c'est du film, c'est tiré du film Eternity and a Day.
Et qu'on a tous vu.
Bah, et exactement.
C'est moi, c'est film, un peu grec, mon film de 2019.
Ouais, film grec de la décade, film of the decade.
Le film, c'est mon film of the decade. moi, je suis satisfait, je valide cette chronique.
Pareil. Toi, tu valides,
Vic? Pareil, man.
Oh, super. Alors, Vic, c'est à toi, on va pouvoir.
Je suis accepté? Je peux
participer au podcast?
Tu fais partie de la compagnie.
Ah, cool.
Tu fais partie de la compagnie, Zaïd. C'est bien. Allez, viens t'asseoir à table. Vic, on va écouter ta chronique. Elle a intérêt très bien parce que tu as taclé les nôtres. Alors, on va être okay. Sans pitié.
Ok.
Il est super sûr de lui. Il n'y a aucun problème.
Lieu habite en banlieue.
Jean-Pierre est mort hier soir. Et surprise, Jean-Pierre est relâ. Il se tient debout, au milieu de la pièce, comme ça, l'air de rien. À sa tête, on dirait bien que même lui n'y croit pas. Il se pince. Aïe, ça fait mal. C'est que je suis en vie, se dit Jean-Pierre. Et pourtant, il sait bien qu'il est mort, puisqu'hier soir, Jean-Pierre s'est tiré une balle de calibre 28 dans la tête. Paf, en plein sous le menton. Histoire qu'au cas où il se loupe, il ne lui reste plus suffisamment d'œil pour se voir, ni de cerveau pour se reconnaître. Or, comme Jean-Pierre le constate en ce moment même, son visage est intact. D'ailleurs, Jean-Pierre se demande comment il peut voir son visage de ce point de vue, puisque traditionnellement, Jean-Pierre a plutôt l'habitude de voir depuis son visage que directement son visage. C'est une sensation tout à fait étrange, se dit-il. Mais bon, il décide de régler ça plus tard. Car la priorité de Jean-Pierre, tout de suite, est avant tout de comprendre comment il a pu passer de l'état de mort à celui de pas tout à fait mort, limite vivant même, voire quasi il se porte pas trop mal. Car ça aussi c'est étonnant, de son point de vue, mais Jean-Pierre se sent plutôt bien, à vrai dire. Bon, on verra ça aussi plus tard. Où suis-je? Qui suis-je? Enfin tout ça quoi, marmonne-t-il avant qu'une pensée fugace ne le traverse. Un fantôme, un truc du type paranormal, se dit Jean-Pierre, qui pourtant n'a jamais versé dans le spirituel ou dans ce genre de considération surnaturelle. En même temps, il ne s'est jamais non plus tiré de plomb dans la tête, le Jean-Pierre. Alors va pas falloir commencer à se croire au-dessus de toutes les possibilités, mon brave. Tu ne peux rien mettre de côté. Tu dois suivre toutes les pistes. Comme un bon commissaire. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Surtout quand on était mort et qu'on n'est plus mort. Au visage de Jean-Pierre, il est clair qu'il se contrefout de ses conseils pourtant bienveillants. Visiblement, il vient de se laisser pousser une âme d'enquêteur, car Jean-Pierre élimine l'option fantôme, revenant, esprit, etc. Soi-disant parce qu'il n'est ni translucide, ni immatériel. Je trouve les preuves bien anecdotiques et frappées du sceau de la culture américaine, mais très bien, continuons. Jean-Pierre regarde autour de lui. Il se trouve dans une pièce de type salon de banlieue pavillonnaire. On pourrait être à Villeneuve-d'Ascq, à Aulnay-sous-Bois ou à Villeurbanne, c'est dur à dire. Le style n'est pas clairement identifiable. Une seule chose est sûre, ce n'est pas le salon de Jean-Pierre, se dit Jean-Pierre, qui est peut-être mort, mais pas amnésique. Il reconnaîtrait son salon entre 1000 salons, il estime, grosso modo. Donc, résumons. Jean-Pierre est mort, mais pas totalement non plus, et il se trouve dans un salon, mais pas vraiment le sien non plus. À cet instant, Jean-Pierre a une pensée théologique. Cette pensée, venue du plus profond de son âme, le percute d'un coup et sans prévenir. Elle peut se traduire comme suit dans l'esprit de Jean-Pierre. « Putain, Dieu habite en banlieue. »« Dieu, 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 mais oui !»« Et comment il n'y a pas pensé avant, Jean-Pierre ?»« Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui l'a transféré, suite à sa mort tragique dans ce salon, que maintenant Jean-Pierre définirait plutôt comme une sorte de salle d'attente divine. » Jean-Pierre est aux portes du paradis. Et c'est plutôt paradoxal en vérité. Car Jean-Pierre, suite à sa première communion, qui ne fut pas aussi réussie que ses parents ne l'imaginaient, selon une majorité d'invités de l'époque, n'a développé, il est vrai, qu'un intérêt, disons, très relatif pour le monde religieux et pour toutes ses succursales. En vérité, Jean-Pierre le sait, même si là, tout de suite, il en a un peu honte, il a toujours considéré la religion comme la plus grande arnaque créée par les hommes. Les bondieuseries, c'était bien peu pour Jean-Pierre. Et voilà qu'aujourd'hui ressemble à un twist spirituel. Jean-Pierre s'exclame tout de go. Con de Curton, ils avaient raison. Enfin, il ne s'exclame pas avec ces mots exacts, maintenant qu'il sait qu'il, avec un grand I, existe bel et bien, mais c'est l'idée qu'il veut faire passer. Bon, donc, re-résumons, car les informations tombent à toute vitesse. Dieu existe, et il y a une vie après la mort, qui commence dans un paradis dont l'entrée se situe en banlieue pavillonnaire de Villeneuve-d'Ascq, d'Aulnay-sous-Bois ou de Villeurbanne. L'enquête de Jean-Pierre avance plutôt bien. Je l'ai visiblement sous-estimé. Il sourit. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste. Première question. Quel Dieu ? Il décide de ne pas y aller par quatre chemins, car après tout, Dieu, qui qu'il soit, est censé avoir l'oreille absolue. Alors Jean-Pierre demande tout haut, en prenant soin de bien choisir ses mots. Dieu, qui que vous soyez, sachez que je crois en vous maintenant. Mais en parlant de qui que vous soyez, vous êtes qui ? Comme Dieu, je veux dire. Puis Jean-Pierre tend l'oreille, et l'âme, bien sûr. Rien. Nothing. Nada. Nenni. C'est un vent divin qui souffle dans la nuque de Jean-Pierre. Et surtout, un coup d'arrêt dans son enquête. Mais il ne faut pas lâcher Jean-Pierre. Ne lâche rien, dirait sans doute un publicitaire. No worries. Jean-Pierre est plutôt de la race des coriaces, des bonhommes. Alors il lève la tête, serre les dents et se reprend. Face à lui, au milieu du salon, entre le téléviseur 4K et la bibliothèque Billy, Jean-Pierre voit une porte. Un indice. Un coup d'œil sur l'écran, c'est le journal de 20h. Il est donc 20h au moins. Nouvel indice. Il ne reconnaît pas le présentateur télé, mais en haut à droite de l'écran, il y a la date. Le 4 janvier 2020. Troisième indice. Et quel indice, se dit Jean-Pierre. Le 4 janvier 2020. Mais c'est le jour de ma naissance, remarque-t-il, chamboulé. Comment est-ce possible ? Voilà qu'après avoir appris que Dieu existait, qu'il travaillait dans un petit pavillon modeste, qu'il y accueillait les ex-morts et qu'il était visiblement en retard à ses rendez-vous, selon ce que son absence laissait constater, voilà qu'en plus, Jean-Pierre venait d'apprendre que le paradis se trouvait dans le passé. Ça commence à faire. C'est alors qu'aussi soudainement qu'en une seconde à peine, un hurlement déchire le mur du salon et glace les entrailles de Jean-Pierre. « C'est une femme », identifie Jean-Pierre, et selon son cri, elle souffre. Jean-Pierre, qui avait toujours eu, malgré son côté dépressif, une spontanéité à toute épreuve pour aider son prochain, se rue sur la porte pour aller au secours de la femme en détresse. Entrée de Jean-Pierre dans la chambre. Ou plutôt, la salle de bain, analyse-t-il en découvrant un lavabo, un bidet, un petit pot à brosse à dents et une baignoire. Dans la baignoire, il y a bien une femme. Jean-Pierre la regarde, sa mâchoire se décroche. Non seulement la femme qui se trouve dans la baignoire est sa mère, mais avec 40 ans de moins que la dernière fois qu'il l'a quittée, un jour avant de se tirer une balle dans la tête, mais en plus, la baignoire est remplie de sang. Car selon ce que Jean-Pierre constate avec les moyens qui sont les siens, la femme, sa mère, est actuellement en train d'accoucher. Nouveau cri de la femme. Elle pousse. Jean-Pierre dit « Maman ?» La femme lève les yeux vers lui et blêmit. Elle dit « Jean-Pierre ?» Il la regarde, sans trop savoir quoi dire. Il faut avouer que la situation est plutôt rocambolesque. Déjà qu'elle n'était pas tout à fait normale, l'enquête vient clairement de prendre un virage encore moins normal. C'est drôle, mais à ce moment, Jean-Pierre pense à Retour vers le futur. La scène où Marty tombe sur sa mère dans le passé, mais dans une version de série Z, un peu le genre ciné indépendant, voire ciné trop indépendant. La pensée passe. Soudain, en bon altruiste qu'il est, Jean-Pierre se dit qu'il faut maintenant aider sa propre mère à se faire lui-même accoucher. Il relève ses manches, avant de se diriger vers elle, les deux bras tendus. Face à l'avancée de Jean-Pierre, que sa mère prend visiblement pour une attaque surnaturelle, le visage de la pauvre femme se contracte dans une grimace affreuse qui stoppe net le mouvement de Jean-Pierre. Il la regarde, elle ne bouge plus. Est-elle morte ? Oui, visiblement, de peur. Elle est morte de peur en voyant son fils suicidé de 40 ans l'attaquer alors qu'elle s'apprêtait à lui donner vie dans une baignoire. Jean-Pierre vient de tuer sa propre mère, au paradis, et avant qu'elle n'accouche de lui. Jean-Pierre revient d'un pas triste dans le salon. Il s'assoit dans le canapé scandinave, qui fait face au téléviseur, et attrape la télécommande. Que va-t-il devenir maintenant ? C'est fini.
Merci.
Alors, voilà. Moi j'ai beaucoup de choses à dire.
Ah bah tu m'étonnes.
Ah c'est vrai. Bon, bah, ça va, alors.
J'ouvre le bal, hein, Florian.
Vas-y, ouvre le bal.
Je vais commencer par dire que j'ai failli écrire cette chronique.
Ah bon.
Mais pas exactement pareil, mais j'ai ma toute première idée que j'ai d'ailleurs que je t'ai dit, mais finalement je vais pas te la raconter pour autant parce que je pense que je vais la faire plus tard. Bah du coup je vais pas la faire plus tard. Je voulais écrire sur un mec qui serait jeté vivant dans un cercueil, enterré. Il refasse à travers sa vie, il dit putain j'ai déconné pourquoi j'ai fait ça. Il finit par se sentir partir parce qu'il manque d'oxygène. Il sent plus rien, puis il ressent quelque chose et en fait il sort du vagin de sa mère. Donc c'était pas si loin que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais faire une espèce d'éternel retour en fait, voilà. Mais du coup c'était pas très très loin. Donc c'était premier ouais, point. Donc du coup pourquoi pas.
Ok.
Je continue sur ma lancée.
Oh, vas-y continue. Alors Jean-Pierre, j'essaie de processer un petit peu.
Moi j'ai plusieurs choses. Et Jean-Pierre on le connaît non? On n'a pas déjà eu un Jean-Pierre dans une chronique ?
C'est possible que j'en écris un, c'est probable.
Si les auditeurs se rappellent, on veut bien savoir parce que vous savez mieux que nous.
J'ai eu des doutes en spécialiste des noms sur le Jean-Pierre, surtout quand je me suis dit la date c'était janvier 2020 parce que j'avais juste de dire que entre la télévision 4K, donc télévision 4K, je pouvais pas remettre Jean-Pierre à l'époque vraiment des Jean-Pierre et j'avais pas envie d'enlever téléviseur 4K. Du coup, j'ai gardé Jean-Pierre et j'ai eu la flemme de changer le prénom parce qu'il y a aucun Jean-Pierre qui va naître en 2020 là. Enfin, ça m'étonnerait fortement, tu vois.
Il y a peut-être au moins un.
Il y en a des milliers et ils sont tous aux Antilles.
Ouais, bon bah du coup ça pourrait peut-être fonctionner, mais j'ai eu la flemme de changer parce que comme vous l'avez constaté, il y a pas mal de fois Jean-Pierre dans le texte.
Légèrement.
Et du coup j'ai.
Mon moment préféré.
C'est resté Jean-Pierre.
Mon moment préféré, c'est quand Jean-Pierre rentre dans la salle de bain et qui fait maman et sa mère qui fait Jean-Pierre.
Et en plus, ouais, j'ai adoré ce moment. Comment elle fait pour connaître son fils?
C'est ça qui est drôle.
C'est la magie de. Hein.
C'est la magie du cinéma.
Et donc on ne saura jamais vraiment ce que c'est que cet endroit. On ne sait pas si c'est vraiment le paradis.
Moi j'ai une théorie.
On ne sait rien en fait. Quoi.
Je pense que c'est l'enfer.
Tu crois que c'est l'enfer?
Bah quand même.
Tu vois qu'il va revivre ça au fur et à mesure.
Je me suis dit qu'on avait dit beaucoup de choses sur la vie après la mort, entre les paradis, les différents types de paradis, les réincarnations, etc. Et je voulais poser mon postulat qui était que quand tu meurs, tu retournes dans le passé et tu tues ta mère avant qu'elle n'accouche de toi, ce qui crée probablement un univers parallèle.
Une faille énorme.
Mais voilà, c'est ça. Oui, ça crée une faille temporelle. Mais c'était sans postulat. Mais comme
c'est un peu une forme d'enfer, moi je trouve. Et passe-moi ma pipe, Florian.
Vas-y, tiens, prends ta
Merci.
Pipe.
Ça me rappelle beaucoup l'enfer selon Jean-Paul Sartre, qui est dans Huis Clos, la pièce de théâtre Huis Clos.
Lui aussi, tu sa mère qui accouche de lui-même.
Non, mais ils sont enfermés dans une pièce qu'ils connaissent pas et ça part. Enfin, en tout cas, jusqu'au milieu de ta chronique, ça colle vraiment beaucoup. Je me suis dit que c'était ça d'ailleurs ton inspiration. Non. En gros, tu meurs, tu travailles quelque part, tu sais pas où t'es et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que bah ça va être un enfer d'être là, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça.
Non, c'était.
Mais c'est quand même un peu un enfer de tuer sa mère quand tu viens de mourir, quoi.
C'est clair.
Ouais, mais il fait pas exprès de la tuer, mais je t'avoue non, que j'avais compris. C'est juste, j'ai commencé la chronique sans vraiment d'idée, juste avec Jean-Pierre est mort hier soir, et surprise, Jean-Pierre est re-là. Qui me faisait marrer en première phrase, et après j'ai pas vraiment su.
Et après, brodé.
Et après j'ai brodé, et au début je voulais faire. Il allait pas forcément retourner voir sa mère, mais je voulais faire intervenir des gens qui rentraient dans le salon et qui connaissaient pas et qui étaient trop bizarres. Finalement, c'est devenu sa mère. Bon, il fallait.
Non, mais ça marche bien, j'aimais bien. J'aime bien. Voilà. Et moi, j'ai une dernière remarque. Je voulais te remercier pour avoir placé Villeurbanne dans ta chronique.
Oh, j'ai pensé à toi. Quel il fallait plaisir. Une troisième ville.
Non, il te fallait une ville. Tu as pensé d'abord à Villeurbanne. Tu connais Villeurbanne un petit peu?
Non, de nom, je connais pour. Ils ont un club de basket, je crois.
Oui, l'Asvel, absolument. J'ai joué à l'Asvel. J'ai joué à l'Asvel de mes 5 à 7 ans.
Voilà. Et Tipeee a joué là-bas?
Tipeee possède l'Asvel.
Ah, carrément. Ouais. Next step, quoi.
Et voilà, et c'est charmant. Voilà.
Bravo, on est pressé. Peut-être un prochain épisode directement à Villeurbanne. Peut-être un épisode même directement dans l'Asvel. Et tu feras ta chronique de basketball sur le terrain.
c'est de la mélodie, mais en tout cas, c'est ça. Merci, Vic.
Mais de rien.
On a passé un bon moment. C'était un moment très Vic.
Exactement. Je suis content d'avoir fini cet épisode. En tout cas, fini les chroniques sur cette petite musique qui m'a un peu détendu.
Tu te sens mieux?
Si vous voulez savoir, compositeur, c'est musique d'ascenseur, compile de 3 heures sur YouTube.
C'est long à télécharger. C'est pas mal.
Tu m'étonnes.
Et après, moi, je pense que j'ai l'impression que mes goûts globaux sont moins bons qu'avant. Je pense que je me fonce vers une médiocrité profonde et j'apprécie ce genre de musique, tu vois. Les trompettes un peu angoureuses et tout. J'aime.
Ouais, voilà. C'est sexy, saxophoniste.
C'est ton côté adulting.
Sax machine. On continue ?
Allez.
On se fait un petit quiz ?
Allez.
Alors, je suis en train de découper un astronaute. C'est écrit astronaute.
Hein. Sans transition aucune.
Je découpe un astronaute. Non, on s'en fout. Et c'est pas comme si on était pro. Hein. Les gens nous aiment parce qu'on est amateurs.
Alors, c'est un sachet plastique qui a l'air d'être de la nourriture lyophilisée.
Alors, il y a ma chère et tendre est allée à San Francisco pour son travail. Et comme chacun le sait, à San Francisco, il y avait des astronautes. Enfin, pas du tout, en fait. Mais bon.
Moi, quand je vais au travail, je vais à Ivry-sur-Seine, tu vois.
Ouais, elle va à San Francisco. Elle est chez Google.
Franchement, ça claque un peu.
Et chez Google, il y avait beaucoup c'était ambiance astronaute. Et donc, du coup, là, elle nous a ramené. Une Napolitan ice cream sandwich déshydratée, enfin de la bouffe d'astronaute, en gros c'est une glace déshydratée.
J'ai du mal à comprendre comment on peut déshydrater une glace et que ça reste une glace.
Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas un astronaute. Florian.
Mais ça c'est sûr.
Non, mais c'est surtout comment ça peut rester une glace si elle est plus glacée.
On est d'accord.
Mais c'est pas une glace du coup, mais ça a le goût de glace.
Du coup c'est un biscuit.
Attendez.
Ouais, c'est ça. C'est comme un Mars glacé. Plus glacé, c'est un Mars.
À la fois, ça ressemble vraiment à un ice cream sandwich.
C'est pas mal, hein. Tiens, tu veux toucher un peu?
Tu veux toucher?
Bon, on va manger, tant pis. Mais on va dire aux auditeurs si c'est bon, et si c'est pas bon, et ben tant pis.
Mais attends, j'en prends un morceau, hein, j'en profite. Hein.
Vas-y, prends. Alors attendez. Freeze dried, ready to eat space food.
Freeze dried.
Je sens que ça va nous assécher la bouche. On va jamais réussir à faire le quiz.
Partout, il va éclater en mille.
Si après avoir goûté, on peut plus parler, bah tant pis.
C'est comme le truc où faut que tu manges 3 petits beurres sans boire d'eau pour gagner une bouteille de vodka.
Quoi? Oui, si tu m'expliques ça, je connais pas ça.
C'est à Lille qu'ils font ça, c'est ça?
Quoi?
Ouais. Explique aux gens.
Non, c'est des petits stands à Lille de gens qui s'installent pour se faire un peu d'argent et qui proposent contre quelques euros de manger 3 petits beurres ou quelque chose comme ça. Tiens, tu m'en coupes un bout. Ou tu prends celui-là? Ah, tiens. Okay. Qui propose aux gens de manger 3 petits beurres sans boire d'eau en moins d'une minute.
Et ça marche.
Et si tu arrives à les avaler, tu gagnes une bouteille de vodka.
On a essayé de le faire déjà avec un ami une fois, Abdoul, on t'embrasse.
Et ça marche pas.
C'est faux de passer des Abdoul comme ça aux gens. Abdoul,
l'ami qui s'est éternué en gardant les yeux ouverts.
Oui, c'est vrai. On a un ami qui s'est éternué et il nous l'a prouvé en se filmant. Et on est repassé les images une par une. Et en effet, il avait les yeux entrouverts en éternuant, ce qui est extrêmement dangereux. Les jeunes, ne faites pas ça chez vous.
Je crois que ça fait partie certainement de mon top 10 des moments de ma vie. Sincèrement, quoi.
C'est quoi?
C'était tellement drôle.
Avant l'épisode, on se disait finalement depuis 10 ans qu'est-ce qui vous est arrivé de
ouf. On rigole pas.
En vrai, Abdoul, il a éternué les yeux ouverts il y a quoi, 4-5 ans déjà?
Et ben ça reste dans mon top 10, tu vois.
Incroyable.
Et donc je viens de finir de.
Je sais pas s'il écoute.
Je viens de finir le sandwich. Bon, on lui enverra un POC. Ouais.
Tu vois. On lui enverra un POC. Il est bon, leur sandwich.
C'est spécial. C'est très étrange. Je t'invite à la manger, on va essayer de meubler à la place.
Je vais essayer de...
Mais attends, c'est très étrange. Déjà, rien que le bruit, les auditeurs, vous voyez que c'est pas normal. C'est pas normal ce bruit.
Je sais pas ce que je mange.
C'est un goût de meringue.
Bah ça goûte grave de meringue, mais...
Laisse-le sur ta langue, ta langue va disparaître.
C'est très étrange. C'est pas mauvais, mais j'en mangerai pas un entier, tu vois. Non, c'est gentil, justement. Parce que j'étais en train de dire que non.
C'est un mélange entre un goût de meringue et un goût de plastique. T'as l'impression de manger un goût de plastique.
Le biscuit est pas mal.
Je sais pas si les astronautes mangent vraiment ça, mais en tout cas, j'espère pas.
Ça prend trop de place, ça, dans le vaisseau.
Ça dépend du vaisseau. Non, ça va, je te le laisse. Bah merci, merci, hein. merci à tous. C'était délicieux. On va peut-être, on était là pour faire un quiz, non?
Oui, merci San Francisco. Bon, quiz, c'est parti. Comment est mort Molière?
C'est ça, quiz?
Ouais, comment est mort Molière?
Il n'y a pas de musique, il n'y a rien.
Comment est mort Molière?
Ah, il est mort sur scène, non?
On peut se donner des noms d'équipe ou pas?
Tu veux comment il est mort?
Il est mort sur scène en jouant le malade imaginaire et il est vraiment tombé malade. Et les gens croyaient qu'il rigolait en croyant qu'il jouait la mort.
Ok, vous avez faux. C'est une légende.
Il nous a bien nus.
Non, Molière est mort chez lui. Le 17 février 1673, effectivement, dans la journée, il avait joué le malade imaginaire, mais il n'est pas mort du tout sur scène. Donc arrêtez de diffuser cette légende.
J'ai confondu avec Dalida.
À tous ceux qui continuent de la diffuser aujourd'hui. C'est faux. Il est mort à son domicile de la rue de Richelieu à Paris. C'est quoi vos noms d'équipe?
Moi, je suis... Je sais pas, Florian, tu décides.
Je suis Molière. Équipe Molière.
Je suis Triceratops.
Ça va être facile à dire ça.
Molière contre un Triceratops.
Ok, ça roule. Alors, nous sommes, comme la musique le laisse deviner, sur un quiz articulé autour du thème de la mort. Car il est temps de parler d'un peu de la mort. Donc nous allons en parler. Je vais vous raconter des histoires de gens, des débuts d'histoires de gens donc qui sont morts. Hein. Sachez que le monde n'a pas attendu les Darwin Awards pour... Enfin, les gens n'ont pas attendu les Darwin Awards pour mourir de manière très conne. Donc du coup, c'est un peu... Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui était mort d'une manière très conne, je sais plus. Ah oui,
avec une note de coup sur la tête.
C'était, voilà, tu t'en parlais avant, c'était un tweet sur le compte d'Alien et les garçons qui référence les morts
par une note coco.
Voilà. Ouais, y a une page Wikipédia de ça.
Ouais, une vraie de vrai.
Voilà, il y a une vraie page Wikipédia. Donc du coup, c'est un petit peu sur ce thème-là. Je vous raconte un début d'histoire et vous devez trouver en fait comment la personne de cette histoire est morte. Ça vous va?
Ok.
Je suis sûr que
c'est une histoire vraie.
Ouais.
Enfin, je suis sûr que dans l'eau, il y a l'inventeur du Segway.
J'ai une question.
Ça pourrait typiquement être ça.
J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'on te laisse aller jusqu'au bout ou on t'interrompt?
Je vais m'arrêter un moment dans l'histoire.
Ça répond pas à ma question, mais ok.
Mais si tu veux m'arrêter avant, tu peux m'arrêter avant. Voilà. On est en 540 avant Jésus-Christ. Milon de Crotone, qui est un athlète grec qui est connu à l'époque pour sa force prodigieuse, tout le monde le sait dans la cité, lui c'est un mec super balèze, il veut tester sa force, il veut en tout cas prouver sa force en achevant de fendre un arbre, qui est déjà un peu fendu mais quand même pas totalement fini d'être fendu, avec ses mains. Il le fait. Qu'est-ce qui se passe?
Avec ses mains?
Ouais.
Sans hache ni rien. Avec ses mains.
T'as un truc avec les arbres en ce moment, toi, non?
Hein? Non, bah écoute, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe?
Équipe Molière, moi je pense qu'il trébuche et il se plante une branche dans le crâne.
Ok, je pense
qu'il se prend une petite épine dans le qui s'infecte.
Ah, ça aurait pu être ça aussi. Ouais, façon,
un tout petit qu'on appelle Marley, ça déjà.
Non, mais c'est pas ça non plus.
Bob Marley, il est mort d'un cancer, gros.
Non. Bob Marley, il est mort d'une infection au pied en jouant au foot. Là, c'est pareil, c'est un tout petit truc.
Il a pas eu un cancer?
Bon, j'en sais rien. On s'en fout. Bon, alors, bref, je continue un peu l'histoire. Maintenant, du coup, vous m'arrêtez. Donc, il présume effectivement de ses forces. Il plonge ses mains dans le tronc. Et il plonge ses mains dans le tronc. Voilà,
il y avait un animal dedans.
Non, il n'y avait pas d'animal dedans. Il plonge ses mains dans le tronc. Non.
Et c'est lui qui se coupe en deux.
Non. Ses mains restent coincées dans le tronc.
Il est mort de faim.
Non.
Mort de soif.
Non. Ouais, enfin, il est immobilisé.
Ouais.
Il est incapable de se défendre.
Et après, il est bouffé par un animal sauvage.
C'est point pour l'équipe Molière. Effectivement, Molière. Immobilisé, incapable de se défendre. Il est dévoré par les loups.
Mais non.
1912.
Et personne ne l'a aidé.
En fait, du coup, il a fait un petit saut de 2500 ans dans le temps.
Bah, ouais. Il a fait ça tout seul, du coup. Ouais, il n'y avait personne, pas de public.
Il veut pas qu'on parle de trucs, il enchaîne. Il enchaîne.
C'est Milon de Crotone, merci, c'est fini. On est maintenant avec Franz Reichelt, qui est un tailleur qui
tailleur
a 33 ans.
Tailleur de vêtements?
D'ailleurs, ça va être en partie la réponse à trouver, donc je ne vais pas te donner la réponse. Il a 33 ans et il se tue en sautant du premier étage de la tour Eiffel, ok ?
D'accord.
Alors qu'il veut tester en public son invention.
Un parachute.
Un parachute en pierre, c'est
un parachute. C'est en deux mots, et effectivement, il y a parachute dedans.
Un parapente.
Non, il y a parachute dans les deux mots. C'est un parachute. Et c'est un
parachute
tailleur.
De secours ?
Parachute de poche.
Non, non.
Parachute intégré à une veste de costume.
Un chapeau.
Presque. Du coup, c'est mon invention, c'est le
costume parachute.
Je te l'accorde. C'est le manteau parachute. Il avait développé.
Ah, c'est
donc,
trop bien. Voilà, Franz Reichel, ça a pas payé.
Ça a pas payé. Quel gros con. Il est mort en 1910.
C'est sûr.
Bah non, on sait pas. Enfin, moi, j'aurais adoré avoir un costume parachute.
Ça existe maintenant. Oh, ça existe.
Oui. T'as vu la vidéo
du mec qui saute par la fenêtre.
C'est pas vraiment un costume.
Non, c'est un sac à dos.
C'est un sac à dos parachute.
Non. Tu l'accroches.
Tu le mets dans le dos.
Ouais.
Tu tires sur un levier et ça se déploie à l'extérieur, mais ça se déploie genre, je sais pas, sur 5-6 mètres.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais.
Et en fait, après, tu te jettes en arrière.
Non, mais en fait, c'était pour quand t'es piégé en haut d'un bâtiment en feu ou qui s'est pris un avion, pour que tu puisses sauter par les fenêtres sans mourir.
C'est ça. Et c'est ouf. Et tu vois le truc, c'est ouf. Bon, pardon.
Petite dédicace, celui-là il compte pour un demi-point. On est en 1923 et on est avec J. d'Aragon, qui est un pensionnaire du théâtre de la Porte-Saint-Martin. Il est mort parce qu'il ne savait pas se moucher. Selon Le Matin, J. d'Aragon, grippé, a envoyé des microbes dans son oreille moyenne en se débouchant le nez, qui a provoqué une otite moyenne aiguë, infection qui, à l'époque, échappe aux médicaments. Ça gagne le cerveau et ça lui fait une méningite mortelle.
Comme
pour
toi,
information,
en fait.
Les enfants, comme moi, c'est pour ça que c'était la petite dédicace, le docteur P.L. Rem explique que, je cite, ouvrez les guillemets, « pour se moucher sans danger, il faut appuyer tour à tour sur chaque narine, une seule à chaque fois. » 1959, avec Boris Vian. Vous la connaissez ?
Non.
Très bien. Il assiste à la première du film.
Oui, je sais, moi.
J'irai
je connais
cracher
sa
sur
mort.
Votre
il fait une crise cardiaque devant ce film tellement il trouve ça nul.
Voilà. Mais un point pour l'équipe Triceratops. Bravo. Donc adapté de son roman, en 59. Et effectivement, après les premières minutes, il se lève, il désapprouve fortement en grognant. Il s'effondre sur son siège dans la salle de projection.
Moi, j'ai juste une remarque.
Transport vers l'hôpital.
Une remarque, pardon, et une demande. Je comprends pas pourquoi on compte les points correctement quand c'est toi qui fais le quiz. Normalement, c'est n'importe quoi.
De quoi
la dernière fois que t'as fait le quiz, donc c'était l'épisode précédent ou celui d'avant, je sais plus. Celui d'avant. Les points à la réécoute, on passe de tout à tout. Genre, on est là. Au début, il y a 2-1. Après, il y a 3-1,5. Après, il y a pi à 4. Après, il y a des fractions.
Celui-là, il comptait pour 1,5 de toute façon.
Tu remarqueras que c'est pas lui qui compte les points, c'est moi.
Il
compte
pour 1,5. Ah, super.
1993.
Super.
Gary Hoy, un avocat de Toronto.
Toronto.
Veut prouver que les vitres du Toronto Dominion Center sont incassables.
Il se jette dessus et il tombe.
Il se jette dessus.
Et ça casse pas et il meurt, justement.
Mais non.
Du choc.
C'est alors c'est pas ça, c'est mon tu cousin. T'en rapproches.
C'est mon cousin.
Ah merde.
Non, c'est pas vrai.
Mes condoléances, Thomas.
C'est pas ça, mais elle se rapproche. Les vitres étaient bien incassables.
Mais ça a fait quand même des petits bouts de verre.
Non.
Ah mais les vitres étaient incassables, mais pas le montant de la vitre.
Voilà.
Ce qui fait qu'elle s'est décrochée.
Il a délogé la fenêtre de son cadre et il a fait.
Moi je voudrais féliciter Molière.
Il a fait une chute de 24 étages.
Bravo Molière, parce qu'il faut le savoir ça.
Si seulement il avait un parachute dans son sac à dos, tu vois. Au moins.
3-3-2,5.
Non, ok, c'est parti.
C'est reparti, ouais.
2007. Jennifer Strange. C'est un nom vraiment trop cool, je trouve. Jennifer Strange.
Jenny Strange.
C'est good.
Une femme de 28 ans, habitant Sacramento, en Californie, meurt intoxiquée lors d'un jeu organisé par une radio afin tenter de gagner une Wii.
Et elle a bu des litres et des litres d'eau, et en fait, elle s'est empoisonnée à l'eau.
Oh non, c'est possible.
C'est tout à fait ça. Ouais. Elle devait boire de grosses quantités d'eau sans uriner, c'était le jeu. Elle a terminé en seconde position. Elle est décédée en rentrant chez elle d'un d'atroces souffrances, victime d'une intoxication due à un excès d'eau. Bravo.
C'est pas lié. Ah, ça va ? Ah, il est en train de mourir.
Comment
en direct.
Comment est-ce
qu'il est mort ? Intoxiqué.
Mais on est sûr que c'est pas à cause du pipi qu'elle a gardé, ça a fait une infection, non ?
Non, non,
c'est
vrai, en fait.
C'est vraiment overdose d'eau.
Ouais, en fait, elle s'est trop diluée, en fait.
C'est incroyable.
Tout simplement.
C'est incroyable. Moi, je trouve qu'Aline et les garçons, on s'amuse et on apprend des choses.
Ah, voilà. Toujours.
Il en reste 3 pour vous départager. Dernier est un joker. Non, le dernier. Oui, il est pas très bien. Ouais, je vous lis le dernier en premier parce qu'il est moins bien. Un adolescent de 17 ans en Moselle, il s'est endormi dans la rue après avoir trop bu.
Ah ouais, j'ai
vu. Il s'est endormi près de quelque chose. Le matin, il est mort.
Il s'est endormi sur les rails de chemin de fer.
Non.
C'est
plus original que ça.
Dans une poubelle. Et après, il a été broyé par la machine.
Un point pour Triceratops, c'est exactement ça. Il s'est endormi dans une benne à ordures. La benne a été ramassée dans le camion benne et il a été broyé.
Pas de bol, hein.
Ouais, et pourtant, et ça, c'est à cause d'Hollywood. Tous les films où on voit des gens s'endormir dans les et se cacher dans les poubelles. Faites pas ça, les jeunes.
Ah, clairement pas. Hein.
Avant-dernière. Je sais plus à quelle date on est. On s'en fout. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée. Qu'est-ce qui s'est passé?
A ouvert une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée.
La lettre, l'adresse n'était pas bonne, ça a fait un retour à l'envoyeur, il n'a pas fait gaffe, il l'a ouvert.
Ah, demi-point, c'est presque ça. Il avait oublié le timbre. Il avait oublié son timbre, du coup la poste lui a renvoyé et il avait oublié, il a ouvert son truc et il s'est tué.
Oh le con.
Donc il a lui-même envoyé, je récapitule quand même, il a lui-même envoyé un courrier piégé avec de l'anthrax ou peu importe.
Qui s'est fait revenir parce qu'il avait oublié le timbre.
Et il avait oublié, donc du coup il l'a ouvert, donc du coup il est mort.
Tout à fait, sacré con.
C'est vraiment con.
Il méritait sa mort.
Oui.
Le dernier, c'est la question Golden Ticket. Celui qui trouve cette question remporte entre Triceratops et Molière. Désolé Molière, c'est un peu moche pour toi parce que t'étais bien en avance. On est avec un homme en Alaska qui est sur un lac glacé et qui, c'est une histoire que j'aime bien, je la connaissais d'avant. Verino, pour ceux qui connaissent Verino, qui est un humoriste, il en fait un bon sketch de ça, c'est très drôle. Il est sur un lac glacé.
Ouais.
Il fait de la pêche.
D'accord.
En faisant des trous dans l'eau à la et sauf que le mec c'est un Américain, en Alaska. Il fait des trous à la dynamite, tu vois, en plus de pêcher, tu vois, il se
met des trous, mais ça fait pas des trous, c'est pas des petits trous, c'est
et après ça fait un énorme trou, donc il envoie des bâtons de dynamite, fait des gros trous, puis après il va pêcher. Enfin, peut-être il va pêcher, peut-être il fait autre chose. De toute façon, il est maintenant, comme vous pouvez vous en douter, il est mort, donc on saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est sur un lac glacé, il a un bâton de dynamite qu'il envoie pour faire un trou.
Je pense que je sais.
Tu connais.
Je la connais pas, mais je suppose il y va avec son chien.
Il y va avec son chien.
Et le chien lui ramène.
Et le chien lui ramène la dynamite et ça explose.
Superbe.
Superbe.
Il était canadien lui.
Il était américain. Ah, il était en Alaska. America first.
Oh putain. Ah, bah,
donc
c'est quel mort stupide.
Voilà, c'était pour le quiz de la mort.
C'est beau. Bravo quiz. Merci la mort.
Merci la mort. Merci la mort.
Et bravo, merci les Américains. Bravo Molière, Triceratops.
Et merci à toutes ces personnes qui sont mortes pour nous faire rire.
Ouais. C'est vrai. C'est triste à la fois pour leur famille. Est-ce que tu crois que leur famille rigole à l'enterrement?
Non.
Putain, il doit en avoir ceux qui ne l'aimaient pas. C'est le grand l'oncle un peu éloigné qui fait putain, ouais, c'était vraiment quand même un sacré connard.
C'est encore plus dur. En vrai, c'est encore plus dur pour la famille. Que t'imagines, c'est une mort grotesque. Ouais. J'écoutais un autre podcast.
T'as des humoristes qui font des blagues sur ton mari.
C'est ça. Et des années après, il y a des connards dans des podcasts moyens là qui sont en train de se foutre de ta gueule alors qu'ils sont pas capables de tenir une émission. J'écoutais un podcast en venant là de ce qui s'appelle Six and Daz, et donc il parle des rappeurs, etc., différents rappeurs, et il prenait un rappeur spécifique, je m'en rappelle plus de son nom, il joue dans un groupe qui s'appelle Mobb Deep, et le mec c'était un dur à cuire toute sa vie, gangster, il a eu des maladies et tout, et il est mort. Donc le mec aurait dû mourir à 20 ans, il a tenu jusqu'à peut-être 45, j'en sais rien, il s'est étouffé avec une cacahuète en studio, un truc comme ça quoi, alors que le mec c'était un bandit, et il est mort,
genre il s'est fait tirer dessus, etc., et tout, et puis il est mort d'une cacahuète,
c'est terrible quoi. Terrible,
super.
Bref, voilà,
ça s'appelle
merci Vic. C'était super.
Et de rien.
C'était un super épisode. Merci Florian d'avoir été présent.
De rien.
On pourrait se remercier.
Merci Thomas de nous avoir invités dans cet épisode.
De rien. Merci Vic de nous avoir accueillis, Florian et moi, au château. Et merci à vous, les auditeurs, vous êtes déjà très beaux. Et en plus, vous nous écoutez. Enfin, ça fait que des qualités, quoi.
Et en plus, vous sentez bon.
Vous sentez extrêmement bon. Vous sentez
ça,
le patchouli. Et aussi la fleur de coton, un peu.
Oui, j'aime bien la fleur de coton.
Moi aussi, j'aime bien.
Beaucoup de podcasts ont des auditeurs qui puent. Nous, on a des auditeurs qui sentent bon.
C'est l'avantage. Selon les NP.
Selon l'RPS.
C'est un acronyme.
Exactement.
C'est le haut études supérieures de.
Est-ce que je peux te demander un service?
Ah non.
Tu peux mettre la musique du basketball pour qu'on se dise au revoir?
On peut mettre la musique du basketball.
Yes.
On se quitte sur une musique bien dynamique.
On se retrouve dans 3 semaines comme d'habitude.
Avec le thème
figure historique.
Moi je ne savais pas.
Je te le dis.
Merci.
Et en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter AELG _ podcast. Vous nous retrouvez facilement sur Google. Vous nous retrouvez sur Facebook. Florian, ou quoi d'autre? Parce que là, je suis en train de prendre ton job.
iTunes. Il faut commenter, mettre 5 étoiles et nous proposer des thèmes.
Mettez-nous des thèmes. Envoyez-nous des thèmes. C'est qu'on le dit plus. Thèmes, on en a encore un petit peu, mais envoyez-nous des thèmes.
Écrivez-nous des lettres et des lettres iTunes, des lettres dans la réalité.
Envoyez-nous des colis, mais pas des lettres avec de l'entrée de l'autre, si possible, ce serait génial.
C'est sympa.
Et surtout, parlez-en autour de vous, c'est toujours ça qui marche le mieux.
Autour de vous et parlez-en à nous aussi.
Oui, exactement. Et parlez-en à vous-même aussi, devant le miroir le matin, devant la glace, quand vous vous brossez les dents, c'est cool. C'est toujours pratique.
Voilà.
Super.
Et surtout, ne buvez pas en roulant.
Oui, c'est vrai, c'est toujours pratique aussi.
Voilà.
Merci.
Allez, bisous, à dans 3 semaines, on vous aime.
Bisous à tous.
Et bonne année encore.
Bonne année.
On a encore le droit,
c'est, oui, c'est ça, bon. On a encore le droit. Hein. Bon. Encore quelques jours.
Bonne année, les amigos.
Ah oui. Au fait. Le livre qui parle de cette épidémie de danse au Moyen-Âge est « Entrée dans la danse » de Gentelet. Désolé, on a oublié de vous le dire dans le feu de l'action. Vous savez ce que c'est. Et sinon c'est sympa d'écouter jusqu'au bout. Allez, bisous.